France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
L'encyclopédie est une somme de connaissances tellement familières qu'on finirait presque par oublier qu'avant elle, on ne classait pas forcément les savoirs de la même manière. Au fond, comment cette œuvre philosophique et scientifique, visant à compiler toutes les connaissances, a-t-elle posé au XVIIIe siècle les bases d'une nouvelle organisation des savoirs, au point de créer des disciplines et d'acter un tournant dans l'histoire des sciences ? Science Chrono retourne à la source d'un projet intellectuel colossal qui agit encore aujourd'hui sur notre perception et notre organisation des savoirs. Et pour comprendre comment l'encyclopédie a influé sur l'histoire et la philosophie des sciences, nous sommes en ligne aujourd'hui avec Martine Groot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et chercheuse associée au Centre Jean Pépin du CNRS. Vous avez dirigé la publication du livre « L'encyclopédie ou la création des disciplines » paru chez CNRS Éditions. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous rappeler le contexte dans lequel est née l'encyclopédie, mais aussi et surtout l'esprit, l'âme, comme le disaient les philosophes d'alors, qui a animé la fabrication de cette somme, qui est un véritable monument dans l'histoire de la pensée. Avant de nous plonger dans l'encyclopédie et de déterminer ce qu'elle a fait à la structuration des sciences, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous parlerons de la découverte, au large de l'île de Sein, en Bretagne, d'un mur immense plongé sous 9 mètres d'eau et qui a été construit il y a 7000 ans environ. On verra comment cette découverte a été réalisée et pourquoi elle nous pose des questions sur cette période de transition entre mésolithique et néolithique. Et on se demandera bien sûr également à quoi pouvait bien servir ce type de structure gigantesque dans des zones qui étaient à l'époque hors de l'eau, lorsque la marée était basse. Mais avant de faire cette plongée dans les eaux houleuses de la mer d'Iroise, retournons à l'histoire des sciences et à ce monument dans l'histoire des savoirs qu'est l'encyclopédie. Martine Groot, pour commencer, j'aimerais tout simplement vous poser une question simple. Comment le projet d'encyclopédie a-t-il commencé en France ?
Eh bien, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de l'encyclopédie que j'ai étudiée pendant toutes mes années de travail au CNRS. Et donc, je suis à chaque fois très, très, très contente et très heureuse de pouvoir faire part des résultats de mon travail.
Le plaisir est partagé.
Alors, comment a débuté l'encyclopédie? Elle a débuté, il y avait un projet, une publication qui a eu lieu en Angleterre par Chambers. Ephraim Chambers, exact, qui s'appelait là, non pas l'encyclopédie, mais la Cyclopédia. Cette Cyclopédia n'avait que 2 volumes en 1728, mais elle a eu un succès de librairie colossal. Donc, les libraires ici en France se sont dit « on va traduire la Cyclopédia et comme ça, on va se faire des sous, quoi. Ce sera aussi un succès de librairie en France. Qui prendre pour traduire ? Diderot était vu comme simplement un auteur et un traducteur. Donc, c'était quelqu'un de tout simple, d'ordinaire, entre guillemets, quoi. Il faisait des critiques d'art, mais il n'était pas vu autrement. Donc, ils choisissent Diderot pour traduire Chambers, la cyclopédie de Chambers. Et il faut trouver aussi un mathématicien. D'abord, Hugues de Malve. Après, c'était compliqué. On trouve D'Alembert. Et ils s'aperçoivent, en lisant la Cyclopédia, d'une part que, Chambers, il a pris pas mal d'articles aux encyclopédies, ou plutôt aux dictionnaires français, donc il n'allait pas retraduire en anglais ce qui était avant, qui avait existé en français. Et puis, ça n'avait rien à voir avec ce qui, après tout, commençait à germer dans leur esprit.
Alors, Martine Groot, est-ce que vous pouvez nous décrire justement ce contexte aussi très franco-français dans lequel naît et germe cette encyclopédie ? Parce que je crois qu'il y a quand même un environnement propice. Alors, bien sûr, il y a cette Cyclopédia de Chambers qui est le modèle, mais il y a un environnement propice à la constitution de grands ouvrages qui cherchent à synthétiser des connaissances. On pense à l'Esprit des lois de Montesquieu, on pourrait penser donner d'autres exemples.
Voilà, absolument. Et ce qu'il y a, c'est que Chambers va surtout fixer sa cyclopédia sur Newton. Et donc, il voulait faire Il a un tableau du savoir, mais qui n'a rien à voir avec celui que fera l'encyclopédie après. Mais il a mis d'abord les sciences dites exactes, quoi. Donc, dans tout ça, Diderot va pas trouver quelque chose qui lui convient. Il va discuter avec d'Alembert et ils vont petit à petit commencer non pas par les mots, mais plutôt par les choses. Et il faut dire aussi que dans ce contexte, faut pas oublier Descartes. Car Descartes avait lancé le discours de la méthode et avait lancé surtout le fait que Si vous savez, par exemple, le début de la première méditation métaphysique, il dit « Il y a quelque temps déjà que je me suis aperçu que dès ma petite enfance, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables et que ce que j'avais construit sur des principes si peu assurés ne pouvait être que fort douteux et incertain. » Et il va, là le doute ça y est installé, et qu'est-ce qui est installé aussi? La possibilité de vérifier tout ce qu'on nous a dit.
Avec une méthode, et on parlera bien sûr, Martine Groult, de comment la méthode cartésienne a complètement abreuvé ces personnages que sont Diderot et d'Alembert. Peut-être que vous les connaissez par cœur, c'est Diderot, c'est d'Alembert, vous avez travaillé à leur contact pendant toute votre carrière, mais les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément familières de ces grands noms qui sont pas que des noms de rues, de boulevards. Quelles étaient leurs fonctions à ce moment-là, au début de la traduction et puis finalement de la rédaction de l'Encyclopédie française?
Alors, au début de la rédaction, Diderot, lui, fait des critiques d'art. Il ne faisait pas plus de choses que ça. Il devait avoir en tête très certainement parce qu'il travaille sur Chambers. Et à partir de Chambers, il ne travaillait pas que sur Chambers d'ailleurs. Il y en a un autre qui les a beaucoup secoués, c'est Bacon. Et François Bacon, qui a écrit des ouvrages sur le Novum Organum, sur l'organisation du savoir, beaucoup influencé, et Diderot le dira d'ailleurs, que l'encyclopédie vient de François Bacon, et ce génie sublime, il lui rend hommage grandement dans les avertissements.
François Bacon, on peut le dire en anglais, c'est Francis Bacon, c'est ce philosophe qui est un peu à l'origine de la méthode scientifique expérimentale moderne, quoi.
Voilà, exactement. Mmh. Pas confondre avec l'artiste peintre. Non. Mais donc, et là, lui, il le fait, il a repris le savoir pour l'organiser selon les facultés humaines. Et donc, on retrouvera bientôt l'entendement humain, selon les facultés humaines, mais lui, il mettra la mémoire d'abord, parce que c'est là qu'on va tout concentrer, la mémoire, ensuite, il parlera de l'imagination et ensuite la raison. Mmh. On verra que Diderot et d'Alembert changeront les choses. Et donc, comme Chambers aussi a mis dans ses... et voulait valoriser Newton, c'est pour ça qu'il a fait ces deux volumes, on retrouve dans les articles de Chambers des textes de Newton. J'ai pas été recherché, mais on y retrouve. Et donc là, d'Alembert est intervenu, évidemment, pour parler sur le point de vue mathématique. Et c'est intéressant de voir que d'Alembert va reprendre les articles de Chambers. On lit beaucoup dans l'encyclopédie à la fin des articles le mot Chambers. Mm-hmm. Ça veut dire que l'article est tiré de Chambers, des fois c'est tiré intégralement, et c'est intéressant de voir que d'Alembert, lorsqu'il utilise Chambers, il le signale certes, mais il n'envoie pas forcément toujours les mêmes renvois. Donc il fait des modifications qui sont intéressantes. Parce qu'il faut dire que Chambers avait comme objectif, sa cyclopédia, c'était une boussole sur les matières. Et donc, lui, Chambers, se positionne en guide. Il sait. Et toutes les sciences, il va les prendre et elles vont être, la liaison des sciences entre elles va être avec le tout.
Avec donc, le tout, donc avec
le tout avec Dieu. Un T majuscule. Oui, et voilà, avec un T majuscule, vous avez bien compris. Donc là, il y aura des changements, mais c'est intéressant de voir que Chambers se positionne vraiment comme un guide, et son ordre qu'il fera du coup dans son tableau, qui n'a rien à voir avec celui de l'encyclopédie, il mettra d'abord ordre naturel et ordre raisonnable. Donc, et toutes les toutes les matières convergent vers l'ordre naturel, c'est-à-dire vers Dieu.
Martin Gould, justement, dans cet ordre-là que développe Chambers, dans lequel finalement prend racine l'encyclopédie française, mais dont elle va s'émanciper d'une certaine façon, il y a une figure qui est très importante, c'est cette figure du savant. Quelle place les Français accordent-ils aux savants, et en quoi cette figure-là, qui apparaît sous leur plume, va diverger d'une certaine façon de celle proposée par Chambers?
Alors là, c'est bien évidemment le premier point le plus essentiel de l'encyclopédie, c'est que l'encyclopédie ne va pas dire que les sciences commencent avec Dieu. L'encyclopédie a pour objectif de donner une place aux savants. Avant, le savant n'avait aucune place. Souvenons-nous de tous les noms des savants qui ont été rejetés. Donc, aucune place donnée aux savants. L'encyclopédie donne une place aux savants et à la science. D'Alembert dira bien, on peut faire une autre encyclopédie sur la théologie ou avec Dieu en premier principe, pas de problème. Nous, en parallèle, on ne s'occupe pas de cette autre encyclopédie. Nous, en parallèle, on va faire une encyclopédie dédiée aux savants et à la science.
Et on perçoit bien là, du coup, tout le renversement que ça comporte pour comprendre comment l'encyclopédie a influé sur la structuration des sciences et a changé finalement notre façon de concevoir les disciplines. Je vous propose d'écouter deux extraits mis bout à bout de l'encyclopédie. L'essentiel du texte est tiré de l'article « Éléments de science » écrit dans le tome 5 de l'encyclopédie par D'Alembert. Le dernier paragraphe est quant à lui tiré du tome 1 et plus particulièrement du discours préliminaire écrit lui aussi par D'Alembert et qui se trouve dans l'introduction donc de l'encyclopédie. On verra ensemble pourquoi vous avez fait cette sélection et cette association, Martin Gould, mais tout de suite, on écoute cette lecture qui vous est faite par Laurent Blampin. C'est l'archive de Science Chrono.
La plupart des sciences n'ont été inventées que peu à peu. Quelques hommes de génie, à différents intervalles de temps, ont découvert les uns après les autres un certain nombre de vérités. Celles-ci en ont fait découvrir de nouvelles, jusqu'à ce qu'enfin le nombre de vérités connues est devenu assez considérable. La difficulté d'ajouter aux découvertes a dû naturellement produire le dessein de mettre en ordre les découvertes déjà faites. Car le caractère de l'esprit humain est d'amasser d'abord le plus de connaissances qu'il est possible et de songer ensuite à les mettre en ordre lorsqu'il n'est plus si facile d'en amasser. Les inventeurs seuls pouvaient traiter d'une manière satisfaisante les sciences qu'ils avaient trouvées. Parce qu'en revenant sur la marche de leur esprit et en examinant de quelle manière une proposition les avait conduits à une autre, ils étaient seuls en état de voir la liaison des vérités et d'en former par conséquent la chaîne. Pour nous borner à quelques règles générales, quels sont dans chaque science les principes d'où l'on doit partir? Des faits simples, bien vus et bien avoués. En physique, l'observation de l'univers. En géométrie, les propriétés principales de l'étendue. En mécanique, l'impénétrabilité des corps. En métaphysique et en morale, l'étude de notre âme et de ses affections, et ainsi des autres. Pour peu qu'on ait réfléchi sur la liaison que les découvertes ont entre elles, il est facile de s'apercevoir que les sciences et les arts se prêtent mutuellement des secours, et qu'il y a par conséquent une chaîne qui les unit. Mais s'il est souvent difficile de réduire à un petit nombre de règles ou de notions générales chaque science ou chaque art en particulier, il ne l'est pas moins de renfermer en un système qui soit un les branches infiniment variées de la science humaine.
Voilà ces extraits que vous avez compilés, Martin Gould. Vous avez vous-même fait un petit travail d'encyclopédiste pour cette émission. Pourquoi avoir fait le choix de cette association, de ces deux passages-là? Aidez-nous à y voir clair et faites-nous une petite explication de texte.
Je trouve que, si vous voulez, dans ces deux passages-là, l'article « Éléments des sciences » est un article donc de D'Alembert qui est un des plus importants dans l'encyclopédie, avec l'article « Art » aussi de Diderot, bien sûr. Dans ces passages, on voit nettement comment D'Alembert explique l'interaction des disciplines. C'est-à-dire que ce qu'il veut expliquer, c'est qu'il veut montrer aussi bien dans le discours préliminaire et donc dans l'encyclopédie avec Diderot, c'est le processus qui est suivi par l'entendement humain et, concernant les sciences, par ce que D'Alembert appellera souvent aussi le génie inventeur, c'est-à-dire le scientifique qui, au cours d'une découverte, va procéder proposition principale par proposition principale ou principe par principe, pour trouver à partir d'un principe, un nouveau principe. Donc la liaison des découvertes entre elles va se faire par la voie des principes. Et c'est dans cette voie que sera créé ce qu'on peut dire une nouvelle science, c'est-à-dire un nouveau principe. Mmh. Bon, on aura physico-mathématiques, on aura en chimie, il y aura aussi plein, etc., etc. Et c'est dans cette voie, pour créer une nouvelle science, que, à la limite, le scientifique est comme Dieu, il va créer un nouveau principe. Donc, si vous voulez, quand j'ai mis le titre de l'encyclopédie ou la création des disciplines, c'était un titre provocateur qui montrait bien que la science et Dieu, eh ben, c'est pareil. Mmh. Le scientifique crée aussi quelque chose. Et bien évidemment, il n'a pas créé le ciel et la terre, comme on dit, mais il va créer les principes pour expliquer le ciel et la terre. Voilà, non. Donc c'était un titre un peu provocateur, mais pour bien expliquer à quel point la science et le scientifique ont un rôle qui est prépondérant.
Il y a quelque chose aussi, Martine Groult, dans ces passages qui m'interpellent, c'est des termes, c'est la notion de mise en ordre, la notion, bien sûr, vous le rappeliez, de principe qui se base sur des faits simples, et la notion de système. Ce système, c'est aussi quelque chose qui est capital, structurant dans l'encyclopédie, et ça passe par vraiment une représentation concrète de comment les savants de cette époque perçoivent la nouvelle organisation des savoirs, il lui donne un nom même, c'est le système figuré des connaissances humaines. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce que c'est que cette restructuration-là, comment ça s'organise, et donnez-nous finalement l'image de ce à quoi ça ressemble ?
Si vous voulez, ce qu'on peut dire, et donc l'encyclopédie est présentée par un discours préliminaire. À la fin de ce discours préliminaire, vous avez 5 points qui sont des tableaux pour bien expliquer les choses. Vous aurez la liste des noms des auteurs, bon, et l'explication du système figuré des connaissances humaines, ce qui va venir après en tableau. Là, vous allez avoir sur les observations sur la division des sciences par le chancelier Bacot, et puis ce fameux système figuré. Alors, faut dire que le chancelier Bacon, lui, aura fait, je l'ai dit, un tableau avec mémoire, imagination, raison. L'encyclopédie va
dans
mettre
cet ordre-là, c'est important de le préciser. Dans,
ouais. Raison, imagination. Voilà. Il va donc changer l'ordre. On voit bien que là, la science est primordiale. Parce que on a les faits, ce qu'on voit dans la nature, comment les expliquer. Eh bien, on ne va pas imaginer que, tiens, ça va faire telle et telle chose. Non, 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 pas d'imagination, de la précision, de la vérification. L'esprit se met en marche pour faire toutes ces vérifications à partir de faits déjà connus et donc déjà vérifiés. Et donc ça, c'est un processus fait par la raison. Mmh. Alors ensuite, que dans la découverte, que dans ce processus, que dans cette marche de l'esprit, c'est ça qui est le plus important à retenir, que dans cette marche de l'esprit, le scientifique va trouver quelque chose qui tiendra de l'imagination, de son imagination pour créer quelque chose, pour trouver le nouveau principe qu'il aura vérifié et qu'il va revérifier ensuite encore. Pourquoi pas ? Mais ça vient en dernier. Ça vient en dernier.
Voilà, alors, cet arbre encyclopédique, finalement, qui propose une forme de nouvelle hiérarchisation des connaissances, accorde, bien sûr, on l'aura compris, une place centrale à la philosophie. C'est une position englobante. C'est le tronc, finalement, de cet arbre-là. Quel rapport la philosophie entretient-elle avec les sciences, selon Diderot et d'Alembert ? Comment on peut décrire cette omniprésence de la philosophie et quelle influence finalement elle aura sur la fabrication du savoir scientifique en tant que tel.
Et total, c'est tout ça. Là, c'est ce que je vous ai expliqué de point de départ du discours préliminaire. Bon, moi, si je me suis intéressée à l'encyclopédie, d'accord, je travaillais avec Jacques Roger, donc il y a eu ça aussi. Mais lorsque j'ai lu le discours préliminaire, j'ai lu que de la philosophie. Mmh. Et la philosophie, elle est, si vous regardez, donc on commence par la mémoire en ce qui concerne donc le système figuré. Et puis, vous avez après la colonne principale, on peut dire, oui, c'est vrai, la philosophie, où vous avez la distinction entre science de l'homme et science de la nature.
Là, c'est quelque chose de fondateur, voilà. Finalement. Là, il y a une genèse qui se joue là.
Absolument. Et alors là, le grand chambardement, enfin le grand bouleversement plutôt, qui est là, c'est que il faut bien dire que toujours dans l'encyclopédie, c'est pluriel. On parle pas d'une vérité, on parle des vérités, tout est pluriel, et il va y avoir aussi la métaphysique qui va être plurielle. Là, c'est un grand bouleversement. Donc, dans la philosophie, en haut, vous allez avoir la métaphysique générale ou ontologie, bon, celle qu'on connaît sans problème, et qui est au-dessus de la science de Dieu. Et puis, en dessous, vous avez science de l'homme et science de la nature. Et au-dessus de la science de la nature, vous avez une métaphysique des corps ou physique générale. Donc, la métaphysique va être pluriel, va y avoir deux métaphysiques. Donc, comme je vous disais, on peut expliquer les choses d'une certaine manière, et puis on peut les expliquer aussi d'une autre manière. Et donc, cette métaphysique des corps donne une importance à cette marche de l'esprit, à cette position du scientifique qui, de lui-même, va faire d'une science, d'un principe, un autre principe, etc., et avancer dans la recherche.
On pourrait parler des heures et des heures de l'aventure éditoriale, intellectuelle, humaine que représente l'encyclopédie. On peut peut-être se concentrer sur le fait que ce système figuré des connaissances humaines, c'est une arête qu'ont du mal à avaler les jésuites, qui étaient quand même assez centraux dans le projet initial de l'encyclopédie. En quoi ça va influencer ce système figuré, la censure finalement, ou en tout cas les débats vifs, et ralentir ce projet d'écriture?
Alors, les jésuites n'ont pas été du tout invités à écrire des articles dans l'encyclopédie. Les jésuites ont commencé par critiquer Diderot parce qu'en disant qu'il n'avait rien compris à Bacon, notamment le système figuré, puisqu'ils avaient interverti les facultés. Et en fait, ils aimaient bien Bacon parce que Bacon a écrit que son système pouvait aussi s'appliquer à la théologie. Rien de tel, bien sûr, dans l'encyclopédie. Ce qui est important vraiment de retenir, et Diderot l'écrit d'ailleurs, que c'est de nos facultés qu'on déduit nos connaissances. Et là, les jésuites, donc, qui n'ont pas eu accès au volume, ni à l'écriture d'articles, ont fait tout leur possible pour arrêter la publication. Et donc, vous avez dans l'encyclopédie les 7 premiers volumes de la lettre A à la lettre G qui sont de 1751 à 1757 qui ont été publiés année par année, sans problème. Et puis, 1759, arrêt de la publication par le Parlement et puis par les ecclésiastiques. Là. Donc, l'encyclopédie est arrêtée. Cependant, les encyclopédistes continuent à travailler et on aura en 1765 les 10 derniers volumes de discours, puisqu'il y en a 17 au total, qui vont être publiés d'un coup. Entre-temps, 62, je crois, si je me souviens bien, la Compagnie de Jésus est également dissoute,
oui.
Et puis les écoles sont fermées. Ceci étant, ils ont bien mis la pagaille, si on peut dire, et ils ont toujours... Diderot écrira, parce que quand le volume 8 réapparaît, donc à la lettre F, Diderot dira qu'ils ont, faudrait que je retrouve le moment exact, peu importe, que c'est dans, ils n'ont jamais pu connaître toutes les injures, tout ce qu'on peut, ce que l'histoire, je retrouve la phrase quand même, ça vaut le coup de la lire. L'histoire nous a transmis de noirceur, d'envie, de mensonge, de l'ignorance et du fanatisme, nous l'avons éprouvé. Bon, donc ça a été un grand arrêt dans l'encyclopédie qui a fait que d'ailleurs d'Alembert après n'a pas repris parce que donc d'Alembert était quand même académicien, hein, c'était Diderot n'a jamais eu de titre, de grand titre, donc mais il a continué à écrire les articles, etc. Mais on sent bien d'ailleurs que dans l'encyclopédie il y a cette fracture entre
les deux moments de la rédaction. Oui,
Les deux moments de la rédaction.
Donc, si on résume finalement, Martine Groult, entre 1751 et 1772, il y a donc 17 volumes de textes qui paraissent, 11 volumes de planches pour plus de 70 000 articles publiés. Donc il y a 21 ans qui se passent. Malgré tout, Diderot, d'Alembert sont des perfectionnistes et ont des repentirs. On voit les impasses, les erreurs, ou en tout cas les choses qu'ils voudraient améliorer. Et ça les conduit finalement à poser les principes, ou en tout cas à se tourner vers un autre projet d'encyclopédie, l'encyclopédie méthodique qui va être conduite par d'autres personnes. Expliquez-nous un peu cette histoire-là de l'encyclopédie méthodique pour conclure, et finalement comment cette encyclopédie-là a-t-elle posé les bases d'une spécialisation qui n'était pas du tout la volonté initiale des encyclopédistes.
Oui, parce qu'il fallait surtout pas qu'il y ait de séparation entre les sciences, puisque vous avez lu les textes qui ont été lus, c'est la liaison entre les sciences qui est la plus importante. Mais Diderot, à la fin de la publication, à la fin de la publication des volumes, s'aperçoit quand même qu'il y a des manques, il y a, ça lui plaît, enfin, il le dit, il est pas content, et donc il va publier des suppléments à l'encyclopédie en 1776-1777, je crois qu'il y a deux volumes. Bon, il publie des suppléments. Pankouk, qui est un libraire d'abord,
est
quelqu'un qui admire Diderot. Et c'est un ami d'Alembert également. Donc, il va dire, je vais aider Diderot, puisque c'est pas complet, l'encyclopédie est pas complète, il le dit, il met des suppléments, eh bien moi je vais compléter l'encyclopédie. Et pour que la science et chaque connaissance soient complètes, on va séparer chaque connaissance. Et donc il va faire des dictionnaires par sciences, donc dictionnaire de chimie, dictionnaire mathématique, dictionnaire de etc., etc. Donc il y en aura quelques 200. Il va donner chaque dictionnaire aux spécialistes. Là, vous avez toutes les rues du Quartier Latin, vous avez Monge et tout le monde. Donc, pour que l'encyclopédie, en fait, là, soit complète. C'était ça dans sa volonté. Ceci étant, ça n'a pas plu à Diderot qui n'a pas été très 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 sympa avec lui. Mais cette encyclopédie par ordre de matière, elle a été organisée à partir de la classification du savoir de l'encyclopédie. Donc, il a repris et surtout, il a repris tous ses ordres encyclopédiques, parce que dans chaque article, vous avez entre parenthèses l'ordre encyclopédique, c'est-à-dire remonter petit à petit dans les disciplines pour voir la place du mot, que ce soit mathématique, arithmétique ou tout ce qu'on veut, dans ce système figuré des connaissances humaines qui est dirigé par l'entendement humain. Hein. C'est ça surtout qu'il faut bien retenir. Et là, il n'y a plus de direction par l'entendement humain, il n'y a plus rien. C'est uniquement les dictionnaires par matière.
Une organisation finalement assez pratique, cette encyclopédie méthodique. On parle de plus de 200 volumes qui sont parus entre 1782 et 1832. Donc là aussi, autre aventure éditoriale colossale qui rencontrera peut-être moins de succès que la première encyclopédie. Mais ce que je trouve intéressant, il y a une ruse de l'histoire, c'est que finalement, les philosophes encyclopédistes n'avaient pas pour projet d'enclencher finalement cette spécialisation des sciences, et malgré eux, finalement, leur projet leur a un peu échappé. Et cette encyclopédie méthodique au XIXe siècle a pris une importance considérable dans l'esprit et la structuration des sciences. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Martine Groot, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. L'encyclopédie, la création des disciplines, c'est le titre du livre dont vous avez dirigé la publication, paru aux éditions du CNRS. Merci encore.
Time told me who's to go.
Valentine's Day par David Bowie. C'était le choix d'un cœur de rocker qui fête la Saint-Valentin. Le réalisateur de Science Chrono sur France Culture, Olivier Bétard. Après avoir tourné les pages d'un océan de savoir, on va plonger dans un océan un peu plus frais, l'Atlantique.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Qui voit Saint, voit sa fin. Les familiers de l'île bretonne de Saint, baignés par les eaux piégeuses de la mer d'Iroise, connaissent ce proverbe. Mais c'est bien d'un début dont il sera question aujourd'hui. Le début sur l'île de Saint de recherches archéologiques passionnantes. Car c'est dans ces eaux agitées qu'on a découvert un mur de 120 mètres de long sous 9 mètres d'eau, accompagné d'autres structures linéaires. Construites il y a 7000 ans, ces structures soulèvent de nombreuses questions. Quelle peut être la fonction de ces murailles? Que sait-on des sociétés littorales qui ont pu les bâtir? Comment cette découverte monumentale nous éclaire-t-elle sur la période de transition entre mésolithique et néolithique? Enfin, ces murs engloutis ont-ils un quelconque lien avec la légende bretonne de la ville d'Is, cette cité mythique avalée par l'océan? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en ligne avec Yves Fouquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géologue, ancien chercheur à l'IFREMER, responsable scientifique des opérations de terrain qui ont eu lieu dans le cadre de la découverte dont nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes également en ligne avec Pierre Stéphan. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes géomorphologue, chargé de recherche CNRS à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest, l'UBO. Et jamais 203, nous sommes enfin en ligne avec Ivan Payet. Bonjour. Ivan Payet, bonjour. On vous retrouve dans un instant. Vous êtes archéologue, spécialiste des sociétés littorales, professeur également à l'UBO. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On va commencer cette discussion avec vous, Yves Fouquet, puisque vous êtes celui par lequel cette découverte a commencé. Pour réaliser cette découverte, vous êtes parti de l'observation de cartes un peu particulières. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel type de cartes vous avez observées et grâce à quelle méthode d'imagerie elles ont été réalisées?
Donc les découvertes sont faites à partir de cartes LIDAR, c'est-à-dire c'est fait à partir d'un faisceau laser transporté par un avion. Donc ça se fait par avion qui vole à basse altitude. Ce faisceau, avec sa fréquence, si l'eau est suffisamment transparente, permet de dresser des cartes jusqu'à une profondeur d'une trentaine de mètres pour la zone de l'île de Saint. Et surtout avec des résolutions de l'ordre de 1 mètre, ce qui change quand même beaucoup par rapport aux cartes marines qui, elles, sont faites pour voir un peu les récifs en surface, mais ne voient pas le fond, ce qui est un petit peu frustrant pour le géologue. Donc il y a une dizaine d'années, ces cartes LIDAR ont été disponibles et j'ai tout de suite commencé à regarder un petit peu et à reprendre des cartes géologiques puisque pour la première fois, on avait une vision continue de cette chaussée à l'ouest de l'île de Saint, qui fait quand même une vingtaine de kilomètres de long.
Vous parlez donc de cette chaussée de l'île de Saint, sur ces cartes que vous observez en tant que géologue, et puis voilà, vous étiez géologue pour l'IFREMER, vous avez l'habitude de l'étude de ces fonds marins. Là, quelles anomalies vous observez quand vous reprenez ces cartes LIDAR qui donnent une image des reliefs sous la surface?
Alors, l'avantage de ces cartes, c'est qu'on voit le détail, en particulier tout ce qui est le réseau de failles. Le réseau de failles se traduit par des petites vallées, hein, quand cette région était émergée dans les périodes un peu plus froides. Et le long de ces vallées, qui sont en creux, puisqu'une faille traduit les zones de fragilité des roches, une pente régulière sur ces petites vallées, c'est régulier depuis la surface.
Alors votre téléphone vibre, je crois, Monsieur Fouquet.
J'ai appelé un barrage de cette région. Et ce barrage.
Yves Fouquet, je vous interromps juste un instant, mais je crois qu'il y a un petit, il se passe un petit quelque chose.
Barrage, l'extrémité de la vallée.
Yves Fouquet, je vous interromps un instant. Il me semble que votre téléphone vibre. Alors peut-être que vous pouvez le mettre sur une surface qui ne vibrera pas, ou en tout cas qui ne perturbera pas votre propos, puisque du coup on a quasiment rien entendu. Je vais vous reposer cette petite question. Mais voilà, quel barrage vous avez observé? Quelles anomalies vous avez observées, vous, sur ces cartes-là?
Donc le haut de plusieurs vallées était barré par des structures linéaires en relief de quelques mètres de haut, une centaine de mètres de long, et ces structures, du point de vue géologique, étaient anormales, parce qu'une vallée, normalement, l'eau, les ruisseaux, elles enlèvent la matière et n'en rajoutent pas. Donc la linéarité et le caractère de barrage nous a intrigués.
C'est là que vous avez dû faire appel, du coup, à une société, la Société d'archéologie et de mémoire maritime, des plongeurs qui ont été courageux, puisqu'il faut aller plonger dans cette mer d'Iroise qui a des conditions un peu particulières. On peut rappeler un peu les conditions techniques qui sont celles des plongeurs quand il s'agit d'aller dans ces eaux-là.
Oui, alors la société, c'est une association, en fait, dont je fais partie, Société d'archéologie et de mémoire maritime. Donc, dès que j'ai repéré ces anomalies géologiques, j'en ai parlé à mes collègues plongeurs, qui ont une grande expérience de cette région, du fait qu'ils ont plusieurs dizaines d'années d'expérience pour les recherches et les plongées sur épave. Donc, c'est un environnement que je qualifie d'extrême, puisqu'on se trouve sur la chaussée de Sein, donc très exposé à la houle, très exposé aux tempêtes. Comme il s'agit d'un haut fond, on a beaucoup de courant, et les périodes favorables à la plongée sont les périodes de mortes eaux et la période sans courant dure à peu près 20 minutes à une demi-heure, donc ce qui fait que les créneaux de plongée étaient extrêmement restreints à nettement moins d'une heure à chaque fois.
C'est très impressionnant quand on regarde les vidéos effectivement de ces plongeurs, d'aller voir lutter très concrètement contre le courant, alors même que c'est le moment où c'est le plus calme.
Voilà, il faut aussi rajouter que s'agissant de fonds qui sont à peu près entre moins de 20 mètres de profondeur, on a une très forte couverture d'algues et les premières plongées réalisées en été n'ont pas permis de bien observer la structure. On a pu confirmer que ce n'était pas naturel, mais la couverture d'algues fait que les collègues de la SAM, là, de toute l'équipe coordonnée par Jean-Michel Corlier, qui est celui qui a peut-être le plus d'expérience de plongée dans ces zones-là, a décidé de faire ce qu'il n'avait pratiquement jamais fait, de plonger pendant les mois d'hiver. On a fait des premières plongées fin avril et début mars l'année suivante. Et là, la grande chance, c'est qu'il n'y avait plus du tout de couverture algale enlevée par les tempêtes. Il s'agissait aussi d'algues annuelles. Donc la structure était sur 120 mètres, totalement dégagée, donc complètement minérale, ce qui est très bien pour un géologue. Et là, on a eu la grosse surprise, enfin y compris pour moi en géologie, de voir une structure linéaire 120 mètres de long, mais le point vraiment étonnant, c'était toutes ces, ce que j'appelle des monolithes, on en a plus de 60 monolithes et des grandes dalles, encore verticales, dressées au sommet de cette structure, je parle de la structure la plus importante. Autour, on a des structures plus petites, mais dont l'architecture est un petit peu la même aussi souvent, et d'où la discussion sur le rôle qu'ont pu jouer ces structures dans cet environnement extrêmement exposé aux tempêtes.
Il faut que combien d'autres structures sont présentes, et est-ce que finalement on peut déjà estimer que ça constitue une forme de réseau, ou en tout cas que ces structures-là sont en relation les unes avec les autres? Nous avons perdu Fouquet.
Alors peut-être sur une zone à peu près de moins. Total, on en a 11 structures en forme de barrage, en fait. Il y en a qui sont plus petites, hein, qui font moins d'un mètre de haut, quelques mètres de large. Donc là, on est plus dans les structures assez bien connues sur le littoral, qui sont des structures de piégeage de poissons, ce qu'on appelle des barrages à poissons. Le côté étonnant de la nôtre, c'est qu'on a 1,70 m de haut, sans compter les monolithes qui peuvent faire un peu plus de 1,50 m de haut, qui viennent se rajouter et renforcer à la fois la structure du mur et rehausser le mur également. Donc c'était une dimension, une architecture qui était également anormale de mon point de vue. Et c'est à ce moment-là que je me suis rapproché de mes collègues de l'université, à la fois pour discuter les âges et pour bien discuter les implications archéologiques de cette découverte.
Eh bien, vous faites une passe décisive, Fouquet, à Pierre Stéphan, vos collègues archéologues, vos collègues géomorphologues. Pierre Stéphan, quand vous apprenez que cette découverte a été réalisée en mer d'Iroise, est-ce que vous pensez tout de suite aux autres structures anthropiques qui ont été découvertes dans cette même mer, dans l'archipel par exemple de Molène? Quels autres exemples on a de ce type de structure immergée?
Oui, alors, on a beaucoup d'exemples hein, sur le pourtour de la façade atlantique, enfin manche atlantique française. Si on se limite au seul département du Finistère, on a plus de 300 barrages de pêcherie. Bon, ce qui fait vraiment l'originalité de celle de celle de l'île de Sein, celle découverte par Yves, c'est essentiellement leur profondeur très très importante. Et des structures de cette situées à de telles profondeurs, on en retrouve une seule, située non loin de l'île de Sein, un tout petit peu plus au nord, dans l'archipel de Molène. Donc c'est en quelque sorte sa jumelle. Alors malheureusement, dans ce secteur-là, les conditions de plongée sont tout aussi risquées, dangereuses que sur l'île de Sein. Donc jusqu'à présent, on n'a pas pu faire d'observation, enfin en tout cas on a tenté des plongées, mais on n'a pas pu faire d'observation détaillée de la structure. Donc là, ces derniers temps, on mise beaucoup sur les travaux des collègues de l'École navale de Brest, avec qui on travaille et qui testent tout un tas de prototypes de drones sous-marins, notamment pour recueillir plus d'observations et essayer de sonder un peu l'architecture de ces murs.
Vous pouvez nous rappeler, Pierre-Stéphane, la hauteur de ces murs, puisque vous parlez du fait que voilà, c'était des dimensions un peu hors du commun. Rappelez-nous un peu ces dimensions. On a parlé de 120 mètres de long pour la structure principale, de 20 mètres de large en sa base, mais parlez-nous de la hauteur.
Alors, la hauteur est assez variable. Ces murs ont parfois été... on parle de murs, mais en fait, il faudrait plutôt parler aujourd'hui d'amas de pierres, puisque une partie, en tout cas d'entre eux, ont été démantelés, certainement par les vagues. Mais il en reste encore une bonne partie des dalles verticales plantées de champs, ou comme Yves l'a rappelé, des monolithes. La hauteur est assez variable. Elle est difficile à estimer, puisque en fait, ces murs sont étalés, mais on peut dire que sur les 20 mètres de large, on a une dénivellation qui est de l'ordre d'un mètre à 1,50 mètre en moyenne.
Quand on parle donc de cette découverte-là, il faut, pour bien comprendre son importance, chercher tout de suite à la dater. Pierre-Stéphane, c'est pas simple là non plus. Quelle méthode finalement vous utilisez, vous, en tant que géomorphologue, pour aller chercher à déterminer l'âge de ces structures-là?
Alors ouais, c'est effectivement très compliqué de les dater directement, parce que pour cela, il faudrait effectivement les sonder l'intérieur de ces amas de pierres, enlever les pierres les unes après les autres, sous l'eau, en plongée, essayer d'y retrouver des restes organiques qu'on pourrait dater par le carbone 14. Donc en l'absence de ces possibilités-là, en fait, on trouve des moyens un peu détournés. Et un de ces moyens, c'est d'utiliser notamment nos connaissances sur les anciennes positions du niveau marin. Et pour comprendre un petit peu comment on s'y prend, je pense qu'il faut qu'on commence par rappeler un peu comment fonctionne un barrage de pêche sur l'estran. Mmh. Donc le principe est assez simple, hein, il est universel. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez l'envie de construire un muret de cette façon-là, vous commencerez par regarder assez attentivement comment la marée monte, comment elle descend sur une zone un peu rocheuse. Et vous finirez certainement par trouver l'endroit idéal dans cette zone de balancement des marées. Vous construirez votre mur pas trop haut, parce que sinon il sera pas assez souvent submergé, et donc le poisson ne sera pas piégé à l'intérieur de votre mur. Et vous le construirez non plus pas trop bas, parce que sinon vous pourrez pas y aller régulièrement pêcher votre poisson. Donc finalement, vous trouverez cette position idéale qui est en équilibre avec les variations quotidiennes du niveau de la mer liées à la marée, et en équilibre avec la position actuelle du niveau marin. Mais ça, c'est valable pour aujourd'hui. Alors quand on se plonge dans le passé, le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui. Par exemple, il y a 7000 ans, enfin au tout début du néolithique, le niveau de la mer était 7-8 mètres sous le niveau actuel. Donc les femmes et les hommes du néolithique, lorsqu'ils ont cherché à construire leurs murs, ils les ont construits 7 ou 8 mètres sous la position idéale d'aujourd'hui. Donc maintenant, pour essayer de dater précisément les structures, il faut avoir une bonne connaissance de la remontée du niveau marin, enfin en tout cas des anciennes positions du niveau marin dans le passé. Et en fait, on a fait un gros travail là ces dernières années sur cette question-là. Et donc, on a pu retracer des courbes de remontée du niveau marin avec une précision de plus ou moins un mètre. Et donc, grâce à ces courbes, c'est des espèces d'abacs, on peut dater. Alors, c'est toujours un peu frustrant pour les archéologues, parce qu'on donne des fourchettes qui sont de plusieurs siècles. Mais on donne en tout cas une estimation de l'âge de ces structures par cette méthode-là.
Donc là, on est finalement il y a 7000 ans. Grâce à cette datation-là, quelles pierres ont été utilisées? Est-ce qu'on sait, parce que du coup, ça a été construit à pied sec en période de marée basse il y a 7000 ans. À l'époque, on était à 2 km de la pointe actuelle de l'île de Sein. Quelles sont les pierres qui ont été utilisées? Est-ce qu'on a repéré des traces de carrière, par exemple? Parce qu'on imagine qu'il a fallu avoir pas mal de bras pour construire ces structures assez monumentales.
Oui, alors donc c'est ce qu'on peut, on peut effectivement penser que ça a dû mobiliser beaucoup de personnes. Alors, les observations de terrain ont montré qu'à proximité, en tout cas, de la structure la plus imposante, celle qui montre toute une série de monolithes alignés, on a effectivement, en tout cas, une zone, un écueil rocheux qui semble avoir fait l'objet d'extraction de pierres. Donc c'est d'ailleurs une zone qu'on appelle la chambre carrée, enfin qui est appelée comme ça par les Sénans, et donc qui aurait pu effectivement livrer les pierres de construction pour édifier ce mur de pêcherie.
Ça nous renvoie finalement à ces sociétés littorales dont vous êtes spécialiste, Ivan Payet. J'évoquais à l'instant le fait qu'il ait sans doute fallu pas mal de bras, pas mal de monde, pas mal de temps pour construire ce type de structure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de l'organisation que ça a requis, cette construction-là? On imagine que à cette période-là, il y a 7000 ans, il n'y avait pas forcément autant de monde que ça à présent, et puis autant de monde sédentaire surtout.
Ouais, il y a plusieurs questions dans votre question. C'est assez compliqué. En fait, c'est avec la datation, la fourchette chronologique fournie par Pierre. En fait, il y a deux possibilités. Soit on choisit la fourchette haute, soit la fourchette basse. Et dans un cas, on se trouve au Mésolithique avec des chasseurs-cueilleurs, et dans l'autre cas, avec des premiers néolithiques, les premiers colons néolithiques qui arrivent depuis le bassin parisien. Pour ce qu'on en connaît actuellement, en tout cas, du mode de vie des premiers néolithiques, ils sont très vite attirés par le littoral et par les îles, puisqu'ils s'installent très vite sur Jersey, et on les retrouve à Belle-Île ou à différents endroits, sur l'île de Groix, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Ils viennent bien sur ces terres qui commencent à s'insulariser ou qui sont déjà insularisées. Mais en revanche, on n'a aucune trace de l'exploitation du milieu marin par ces gens-là. Donc, si on se base sur ces données-là, on aurait tendance à les disqualifier un peu d'office, et surtout si on pense à l'hypothèse barrage de pêcherie, et auquel cas on prendrait plutôt la fourchette haute et on se tournerait vers le mésolithique, ce qui serait pas non plus aberrant, sachant que notamment en Irlande, les collègues ont mis en évidence des barrages de pêcherie bien datés, eux, parce que présence de bois conservé au Mésolithique.
Donc cette période du Mésolithique, qu'on comprenne bien un peu les modes de vie des sociétés qui habitaient sur ces littoraux, c'était des modes de vie peut-être plus tournés, comme vous l'évoquiez, vers la mer, et peut-être moins que les modes de vie tournés plus vers l'exploitation des ressources agricoles apportées par les néolithiques.
Ouais, c'est ça. En fait, toutes les données qu'on a pour le Mésolithique sur le nord-est atlantique, montrent bien que on a des amas coquillés et puis donc du coup de l'exploitation des ressources marines, qu'il s'agisse des poissons ou des coquillages et des crustacés. Donc en fait, on peut très bien imaginer sur l'île de Sein, qui est bien plus grande à l'époque, une communauté assez nombreuse pour ériger ce type de barrage.
Mais pour autant, on n'a pas retrouvé de traces de ces populations-là. Est-ce qu'on a des éléments qui nous permettraient de comprendre un petit peu la présence humaine et la présence d'une société déjà établie sur l'île de Sein à cette époque?
Et non, malheureusement, pour l'instant, c'est le grand manque. Mais comme le disait Pierre, il y a une grande partie de l'île de Sein de l'époque qui a disparu sous les eaux. Mm-hmm. Donc, c'est pas non plus complètement étonnant qu'on n'ait pas les amas coquillés et les habitats qui vont avec pour ces périodes. On en a quelques exemplaires conservés sur le littoral sud-armoricain, à Bégande-d'Orchêne, à Plomeur, à Bégarville, Théviec et Dick, dans le Morbihan aussi. Ça fait que 4 amas coquillés pour des centaines de sites mésolithiques qui ont été repérés soit en fouille, soit en prospection de surface. Donc, vous voyez bien que finalement, on a vraiment une véritable lacune, et c'est tout à fait logique finalement, puisque c'est des sites qui se trouvent en bordure de mer, qui sont implantés non loin de la mer, donc ils ont été érodés, quoi.
On a parlé, on a évoqué bien sûr la fonction de ce mur principal qui serait, selon les hypothèses, un barrage de pêcherie. Est-ce que vous pourriez nous rappeler l'importance, les arguments en présence pour consolider cette hypothèse-là du barrage de pêcherie? Est-ce qu'on a d'autres exemples dans le voisinage? Est-ce que c'est finalement l'hypothèse la plus importante à retenir?
Alors, c'est l'hypothèse la plus plausible de mon point de vue, et pour Pierre aussi. Après, plausible parce que voilà, on sait qu'il y a d'autres barrages de pêcherie à cette période-là au Mésolithique, donc c'est pas un scoop. On sait aussi que les chasseurs-cueilleurs en différents endroits du globe. Que ça soit, bon, j'ai parlé de l'Irlande tout à l'heure avec des sites contemporains, mais autrement, la fabrication de grands pièges pour chasser, c'est également quelque chose que l'on connaît assez bien, que ce soit chez les Inuits, des pièges avec des grandes pierres dressées également pour canaliser en fait les caribous vers des endroits où on va pouvoir les abattre assez facilement, ou bien alors dans le désert, les desert kites qui ont été mis en évidence aussi, et de la même manière les gazelles sont canalisées vers des systèmes de nasses. En fait, c'est le même principe que les pêcheries. On piège les animaux comme on piège les poissons. Donc oui, ça semble en tout cas pour l'instant la meilleure hypothèse, mais ça veut pas dire qu'il faut pas continuer à chercher, et éventuellement il y a peut-être d'autres possibilités. Et pourquoi pas se tourner vers le mégalithisme.
Alors ça, c'est une question qui se pose, parce qu'il y en a qui... Enfin, voilà, Jean-Michel Kerroulé ou d'autres plongeurs ont dit c'est Carnac sous la mer quand ils ont plongé, qu'ils ont vu ces mégalithes qui se dressaient sur ce mur monumental. Carnac, c'est à 160 km, si je dis pas trop de bêtises, de l'île de Sein, en gros, en très très gros. Mais des mégalithes, il y en a d'autres plus proches. Est-ce qu'on fait un parallèle quand on est archéologue comme vous et qu'on étudie les sociétés littorales dans cette région-là, immédiatement, entre ces monolithes posés sur ces murs et le mégalithisme, ou bien est-ce qu'il faut garder un peu de prudence là?
Je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Disons que, en effet, le fait de voir des monolithes plantés, ça peut évoquer le mégalithisme et des lignes de pierres dressées, comme on en connaît tant à Carnac, mais il y en a également de nombreuses en presqu'île de Crozon, beaucoup plus proches, ou même quelques-unes aussi dans le Cap Sizun, même si certaines ont été détruites plus récemment, mais en tout cas il en existait. Donc oui, c'est pas un problème, on sait que ça existe. Après le mégalithisme, pour l'instant c'est vrai qu'on l'a attribué essentiellement au néolithique, et ce, j'ai envie de dire, malgré le fait qu'on ait quand même quelques datations qui nous posent problème, puisqu'en fait à chaque coup que l'on fouille, enfin les dernières années, les derniers gros sites qui ont été fouillés de champs de menhir, en fait, on livrait dans des charbons de bois dans les calages de ces stèles, et il y a toujours une ou deux dates qui tombent dans le mésolithique, ou en tout cas dans la toute fin du mésolithique. Et donc finalement, on a peut-être écarté un peu d'un revers de main un peu trop facile ces datations, et il faudra peut-être revoir à l'avenir si finalement il n'y a pas des prémices ou même carrément des premières pierres dressées que l'on peut attribuer à ces chasseurs, cueilleurs, pêcheurs de la fin du Mésolithique.
Puisqu'on parle de datation, je me retourne vers vous, Pierre Stéphan. Vous travaillez en ce moment même avec un chercheur qui est en train d'écrire sa thèse à l'amélioration de ces techniques de datation, de ces structures. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, et comment elles vont pouvoir nous éclairer d'un autre regard, finalement, sous un autre jour, sur ces structures-là?
Oui, alors effectivement, on co-encadre actuellement une thèse sur ce sujet avec un collègue de l'Université de Rennes, Guillaume Guérin. La technique qu'on développe actuellement est appelée la luminescence de surface de roche. Donc c'est une technique qui permet de dater la dernière exposition à la lumière de blocs rocheux. Donc ça permet de dater notamment des monuments en pierre et cela en l'absence de vestiges organiques. Alors, comment ça fonctionne? L'idée, c'est de regarder les grains de quartz et de feldspath dans la roche. Ces minéraux sont assez particuliers parce qu'ils se comportent comme des chronomètres qui se réinitialisent et qu'ils sont exposés à la lumière. Donc, lorsqu'ils sont dans l'obscurité, en revanche, ils ont la capacité d'accumuler, ils vont accumuler de l'énergie sous l'effet de la radioactivité naturelle. Et à l'inverse, ils vont la libérer sous la forme d'une luminescence quand ils sont exposés à la lumière. Donc, via cette méthode, on espère pouvoir affiner la datation des structures submergées, notamment, justement répondre à cette question, est-ce qu'on a affaire à des structures qui datent plutôt de ces sociétés mésolithiques, enfin de la fin du mésolithique, ou plutôt à ces premiers éleveurs et cultivateurs du néolithique. Donc je trouve que si on arrivait déjà à répondre à cette question, alors l'objectif est plus large que ça, puisque à terme, si on valide, l'idée c'est aussi de valider notre approche par les anciens niveaux marins, et dès lors qu'on la validera, on pourra de manière beaucoup plus extensive dater finalement l'ensemble des barrages de pêcheries, toute époque confondue, qu'on retrouve par centaines le long des côtes d'Atlantique et de Manche.
Yvan Paillet, est-ce qu'on peut aussi envisager de réaliser des prélèvements ou des sondages dans les structures elles-mêmes? Est-ce qu'on pourrait réaliser ce genre de prélèvements et quelles réponses on pourrait avoir?
Je pense que oui, à l'avenir, il est évident que là, on a un corpus qui est énorme, qui est vraiment, il y a de quoi jouer. Je pense que Arthur Jumeaucourt, dans le cadre de sa thèse, va bien l'exploiter et va certainement faire progresser les datations. Maintenant, c'est quand même des sites qu'on connaît assez mal, même d'un point de vue architectural. Et donc, on le voit bien avec l'exemple de Toularfot, qui peuvent révéler des sacrées surprises avec justement cet aménagement de pierres dressées au-dessus d'un mur, ce qu'on n'avait encore jamais vu dans les quelques barrages de pêcherie qui avaient été relativement bien observés jusqu'à présent. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a différentes manières de construire un barrage de pêcherie, et je pense que en effet là, c'est vraiment les techniques de l'archéologie qui va falloir mobiliser. Donc réaliser des relevés très précis, des sondages quand on le peut. Ça sera pas toujours possible du fait des courants, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a des zones un peu plus calmes, donc il faut cibler les pêcheries peut-être dans des secteurs un peu plus calmes et essayer de réaliser des sondages quand on le peut pour avoir des coupes stratigraphiques, pour voir comment sont construites, érigées ces barrages, voir leur diversité, comprendre l'origine des pierres qui sont extraites, comprendre aussi, parce qu'en fait, historiquement, elles sont bien documentées, on sait que c'est des monuments qui vont avoir une durée de vie assez longue, qui vont être rechappés à plusieurs reprises. Donc ça aussi, on peut le voir à travers l'étude architecturale. Donc il y a tous ces chantiers à développer pour l'avenir.
Et pour conclure, Yvan Paillet, on a beaucoup parlé de cette cité mythique de Dis. Est-ce qu'on peut trouver des échos entre ce genre de vestiges et la fabrication d'une légende? Expliquez-nous un peu le lien en quelques mots qu'on peut établir entre ces structures et cette légende.
Alors disons que des murs de cette taille, de toute façon, ils ont mis longtemps avant d'être complètement recouverts par la mer, et donc il y a des générations et des générations d'hommes qui les ont vus émerger, et donc on peut imaginer que dans la culture populaire, ça soit resté en mémoire. À titre d'exemple, Pierre tout à l'heure citait un autre système de barrage de pêcherie très très bas, qui a plus de 7 mètres dans l'archipel de Molène de profondeur, et donc qui date aussi de cette même période, donc globalement du mésolithique, et en fait il s'appelle les Bulvenu. Et Bulvenu, en fait, en breton, ça veut dire Pulvenu. Donc, en fait, c'est les pierres dressées. Et comment peut-on appeler ça les pierres dressées s'il n'y a pas quelque part la mémoire de ces pierres dressées? Là, c'est aussi tout un travail qu'on réalise à l'Université de Brest avec un collègue qui est ethnolinguiste et qui s'appelle Daniel Lebris, qui travaille sur la toponymie de ces barrages de pêcherie.
Et cette mémoire, bien sûr, on pourrait en faire une émission, pourquoi pas une prochaine émission. En tout cas, je vous remercie tous les trois, Yvan Paillet, Pierre Stéphan et Fouquet, d'être venus nous raconter cette belle découverte au large de l'île de Sein. Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, à Étienne, Bruno Sansini, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Anthony Thomasson, aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.